Aide-moi, ordonna Lutz calmement à Wotan. À l'entendre, il n'était pas entouré d'une vingtaine de chasseurs armés, leurs deux compagnons blessés et inconscients. J'ai besoin de ma trousse de couture, poursuivit-elle. C'est un petit rouleau de tissu rouge avec des aiguilles et du fil. Si je recoupe pas son cou, Alberan va se vider de son sang. Wotan aurait bien voulu, mais le fond sec et le ceinturet rapprocha aussitôt l'impitoyable lame de vitrafer de sa glotte. Il s'immobilisa. Le vitrafer coupait comme un rasoir. « Je veux aider mon ami !» protesta-t-il, se demandant comment faire comprendre son intention. Le foncet ne bougea pas.
« Je pense pas qu'il va vouloir »
grogna-t-il. Lutz leva la tête, évalua la situation et prononça quelques mots incompréhensibles. En tout cas, Wotan ne comprit rien. Par contre, le foncet se tourna vers son chef qui avait parlé avec Marianne. Le chasseur s'approcha de Lutz et posa une question, sans doute en foncet, à laquelle Lutz, étonnamment, répondit dans la même langue. Le premier baissa son arme et s'éloigna d'un pas.
« C'est bon, » murmura Lutz. « Tu peux y aller. »
Sachant que les foncets surveillaient le moindre de ses gestes, Wotan s'avança prudemment pour rejoindre Bou, l'âne qui les accompagnait depuis Bois-Sature, et ouvrit le sac de Lutz.
« Qu'est-ce que tu leur as dit ? »
s'enquit-il du bout des lèvres. L'étonnante amie de Marianne était une énigme pour lui. Trouvée 7 cycles plus tôt sur une plage de Green Eya, elle affirmait ne rien savoir de ses origines. Et pourtant, en plus de ses surprenants pouvoirs d'écoute et de rapidité, elle semblait maintenant maîtriser la langue des foncets.
« Je leur ai demandé s'ils étaient eux-mêmes en capacité de soigner Alberan, » répondit-elle. « Ils ne le sont pas. Dépêche-toi !»
Les doigts de Wotan rencontrèrent le petit nécessaire de couture.
« Trouve un linge propre et viens à côté de moi, »
ordonna Lutz. Elle le suivit des yeux tandis qu'il s'approchait et lui prit la trousse d'une main, tout en maintenant de l'autre le bout de jupon déchiré contre le cou d'Alberan.
« Dès que j'enlèverai ce tissu, tu dois mettre le linge propre à la place et appuyer dessus. Il faut empêcher le sang d'inonder la blessure, le temps que je prépare l'aiguille et le fil. »
Wotan obéit, s'agenouillant pour peser sur l'épaule du jeune garçon. Lutz sortit de la pochette rouge une aiguille d'os et se mit à chantonner de manière presque inaudible des sons étranges, scandés comme une prière. Wotan ne les comprenait pas plus que ceux enfoncés. Il la regarda enfiler l'aiguille.
« Tu vas te déplacer tout doucement, » murmura-t-elle, « pour me donner accès à la blessure. »
Wotan se décala légèrement, observant Lutz avec stupéfaction. Elle savait réparer une blessure pareille. Totalement concentrée sur sa tâche, rien ne l'affectait. Ni Kéril, qui gisait à 2 pas d'elle, ni les foncets, qui les entouraient avec leurs flèches prêtes à partir. Ses yeux violets ne lâchaient pas l'aiguille qui filait et refilait, pareil à un petit poisson dans les eaux rouges de la blessure d'Alberan.
« Trouve-moi un autre linge propre !»
ordonna-t-elle en expirant bruyamment. Wotan sursauta. Il avait l'impression de s'être presque endormi.
« Dans mon sac. Mets du miel dessus, puis recouvre la blessure avec. Je m'occupe de Kéril. »
Wotan obtempéra, se dirigeant de nouveau vers Bou pour sortir le dernier broc de miel que Giroda, leur tante, avait ajouté juste avant qu'il quitte le château familial. Une fois le linge enduit, il revint vers Alberan et se pencha pour l'appliquer sur son cou, comme Lutz le lui avait demandé. Un léger souffle chatouilla les poils de sa main.
« Il respire !»
s'écria-t-il.
« Heureusement !»
ricana Lutz.
« Sinon, ça servirait pas à grand-chose que je me fatigue à le recoudre.
Kéril aussi.
Apporte-moi un couteau, que je sorte le caillou de cette blessure. »
Derrière lui, Wotan sentit les foncets se détendre légèrement en voyant qu'Alberan avait été rappelé des portes de la mort. Il se tourna vers eux, regrettant pour la première fois de sa vie de n'avoir jamais pris la peine d'apprendre ne serait-ce que quelques mots de leur langue. Il aurait pu au moins demander à Alberan comment dire « salut ». Mais personne n'apprenait la langue des foncets. Pour beaucoup, ils étaient un sous-peuple, des radeaux toujours en mouvement, des voleurs qui disparaissaient dans la nuit. Eux, par contre, parlait souvent plusieurs langues.
« Nous sommes des amis »,
dit-il lentement en bériche, reprenant les mots que Marianne avait utilisés. Les Foncés l'ignorèrent.
« C'était un jeu »,
poursuivit-il néanmoins.
« Albéran nous avait guidés jusqu'ici, jusqu'à chez vous, et on voulait le nommer chevalier cartographe. »
Le grand Foncé qui avait parlé à Marianne ouvrit la bouche, mais Lutz l'interrompit aussitôt avec un rapide discours en Foncé. Le chasseur la dévisagea un long moment avant de baisser son arc. Wotan se tourna vers elle.
« Qu'est-ce que tu lui as dit ?»«
La même chose que toi, mais dans sa langue. »
Elle prit le couteau des mains de Wotan et se tourna vers le grand Foncé, lui adressant un nouveau discours incompréhensible. Wotan attendit, sur ses gardes. Le chasseur hocha la tête, se tourna vers ses troupes et aboya un ordre. Deux d'entre eux baissèrent leurs armes et quittèrent le groupe. Wotan commença à se détendre.
« Et comment t'as appris à parler le Foncé ?»«
Grâce à Albéran, »
répondit-elle, concentrée de nouveau sur la blessure de Kéril.
« D'abord dans les souterrains, puis au closter, pour pouvoir parler sans que les sorcières nous comprennent. Et nous avons continué par la suite, une ou deux phrases par jour. Les chasseurs, là, vont chercher les branches pour fabriquer des civières avec leur tressage de nœuds. Ni Kéril ni Albéran ne pourront marcher, et nous n'allons pas rester ici.
« Quel merdier !»
soupira-t-elle en se redressant pour rendre à Wotan son petit couteau.
« Et moi qui pensais qu'on était arrivé au paradis ?»
Lutz désigna d'un mouvement théâtral le surplomb rocheux sur lequel il se trouvait. La bouche sombre de l'entrée des souterrains située derrière Wotan, dans laquelle s'abritait leur petite âne, s'ouvrait sur un sentier escarpé qui descendait vers une forêt de conifères. Les plaines cultivées qui s'étendaient au-delà vibraient sous un ciel uniformément bleu.
« La bonne nouvelle, » reprit-elle en souriant, « c'est que nous avons réussi à trouver les Foncés. Eux, apparemment, nous ont vus de loin et nous ont pris pour des ennemis. Kéril a eu de la chance d'avoir été frappé par une pierre lancée à partir d'une fronde et non par une flèche. Sinon, il serait mort. L'os de son crâne n'est pas brisé. » Mais sa tête a cogné le sol quand il est tombé et il va se réveiller avec une sacrée migraine.
Elle hésita un instant avant de poursuivre.
C'est Albéran qui m'inquiète davantage. Il a perdu beaucoup de sang.
Wotan examina plus attentivement le jeune garçon. Albéran n'avait pas bonne mine, mais il le trouva moins pâle que quand Lutz avait commencé à refermer la blessure. Ses lèvres n'étaient plus aussi bleues.
Il a l'air d'aller mieux,
murmura-t-il. Lutz semblait sur le point de répondre quand son attention fut attirée par les deux Foncés, revenus avec quatre longues branches droites. D'un mouvement concerté, les jeunes chasseurs se mirent à fabriquer des civières à partir de nœuds de portage. Wotan avait découvert ces tressages de marins sur le Kogé qui les avait emmenés de Green Eia. Il avait l'impression que des cycles et des cycles s'étaient écoulés depuis. Mais en réalité, cela faisait à peine deux lunes qui furent. Pendant que Lutz rangeait ses affaires sur l'âne, Wotan s'approcha de Kéril pour étudier le visage ciselé de son grand frère.
« Bisa, si tu m'écoutes, sauve-le »,
pria-t-il intérieurement. Kéril était souvent distant, renfermé et peu bavard. Pourtant, suite au massacre d'une bonne partie de leur famille, Wotan avait découvert que Kéril était aussi quelqu'un de courageux. Malgré leur jeunesse vécue séparément, ils avaient commencé à nouer une vraie relation fraternelle. Si l'on pouvait dire ça d'un demi-frère. Les beaux cheveux blonds dorés de Kéril étaient si différents de ceux de Wotan, dont la tignasse était presque noire. Il reporta son regard sur les Foncés. Ceux qui n'étaient pas occupés à tisser les nœuds de portage le tenaient toujours en joue, avec une expression tout sauf amicale. Il les avait imaginés beaucoup plus sympas, comme Albéran ou l'équipage du Kogé. Tout en surveillant les blessés, Lutz parut comprendre son débat intérieur. Encore un de ses dons inquiétants.
« Mets-toi à leur place »
murmura-t-elle avec un sourire un peu dépité.
« Taneke et l'équipage du Kogé nous connaissaient. Marianne était la Jarl Konina. Tu étais son beau-frère de la famille Boissature. On comptait pour eux. Alors qu'ici, nous sommes des étrangers.